Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. L'édition de juin de la revue La Vie Mancelle et Sartoise numéro 479 est disponible et une fois de plus, nous allons vous donner envie de vous la procurer afin de découvrir la richesse de son contenu. Notre invité, monsieur Jean-Pierre Guyard, président et directeur de la publication. Bonjour.
Bonjour.
Donc depuis le mois de septembre dernier, vous donnez l'opportunité à vos lecteurs de revivre les différents événements de cette course des 24 heures dont nous célébrons cette année le centenaire. Alors on va parler notamment pour cette publication des grands duels en parcourant la page tout de même 16 à 33. Alors on va commencer par le coup de théâtre à l'arrivée, c'était en 1935 et c'est Jacques-Henri Migné qui nous fait revivre cette course exceptionnelle aux multiples rebondissements.
D'abord ça a très bien commencé puisque ça a démarré sous la pluie, qu'on voit bien les averses, vous verrez ça quand vous le lirez. Et puis c'est la 13e édition des 24 heures. Depuis 4 ans, Alfa Romeo, 4 victoires consécutives, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment aux premières places. Par contre, cette année-là, il y a sur 58 voitures au départ, il y en a quand même 37 britanniques. C'est-à-dire que nos amis d'Outre-Manche commencent à s'intéresser en se disant peut-être on va peut-être arriver à gagner. La course se déroule sous la pluie, le temps typique des 24 heures des mauvaises années. Et puis il y a un grand duel qui démarre entre la Lagonda et une Alfa Romeo. Alfa Romeo numéro 12 et la Lagonda à 8 heures du matin, un petit peu après le lever de ce qui aurait dû être le soleil, elles sont dans le même tour. Ce qui veut dire que rien ne prédit qui va gagner. À 11h du matin, l'Alpha dépasse la Lagonda. 15h, elle a deux tours d'avance. Tout semble jouer. Mais mon Dieu, elle s'arrête à son stand à 15h17. Oui, ça arrive souvent, ça. La réparation se prolonge. Et puis, Fuentes, le pilote, il prend le volant et repart au ralenti pour coûte que coûte terminer. Dreyfus, lui, avec sa voiture, avec sa Lagonda, il se dit « moi, j'y vais ». Donc, il double la voiture avant le virage d'arnage. Il n'est plus qu'à un tour de la voiture anglaise. Il reste à peu près 20 minutes. Suspense, tout le monde est en train de se ronger les ongles dans les tribunes. Et puis, il y a un problème. Le reporter de West Eclair lui dit, d'après le pointage qu'on a fait, Alfa Romeo était à un tour de la Lagonda, alors que les haut-parleurs annoncent à la foule que l'équipe passe en tête. Alors, même le stand du coup, il dit, puisqu'on passe en tête, donc il croit à la victoire. Qu'est-ce qui se passe quand on est en tête à un tour, ou deux tours, ou trois tours de l'arrivée? On lève le pied pour terminer coûte que coûte. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que on avait annoncé une voiture en tête, et malheureusement, c'est pas elle qui y était, c'était la deuxième. Et donc, Louis Dreyfus n'avait pas levé le pied, il aurait vraisemblablement pu rejoindre la Lagonda. Et puis peut-être que si, mais comme dit Jacques-Henri Migné, avec des si, on mettrait le Mans en bouteille.
Et un autre duel également qui oppose Jaguar à Ferrari, c'est en 1954. Et là, c'est Patrick Mèche qui nous en parle, notamment avec la pluie également qui s'invite, semble-t-il.
Oui, alors, 54 aurait dû être une belle année, sauf que... La pluie qui s'est mis encore une fois à balayer le circuit. Alors, à noter quand même que c'était le 22e Grand Prix d'endurance des 24 heures du Mans, et c'était la première fois que ça passait à la télévision. Et puis, il y avait un grand duel qui opposait Jaguar à Ferrari. Donc, le bras de fer a démarré, et puis la météo, elle a dit, attendez, moi je vais peut-être arbitrer le duel franco-italien. Et puis, bon, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, toujours. À l'aube, les deux équipes d'usine n'ont plus qu'une seule voiture. D'un côté, Gonzalez et Trintignant mènent toujours. Donc ça, ce sont les pilotes de Ferrari. Et la type D de Duncan Hamilton, Tony Raulte, se situe plusieurs tours derrière. Et il y a un dernier arrêt à 14h45, voyez-vous, hein, toujours souvent dans les deux dernières heures de course. Trintignant, il s'arrête vers son stand et puis pour un arrêt de routine. Bon, on se dit ok, il n'y a pas de problème, on va changer de pilote. Oui, mais manque de chance, quand Gonzalez prend le relais, il appuie sur le démarreur, ben, manque de peau, ça redémarre pas. Donc, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est tout simplement que le circuit d'allumage est complètement noyé par la pluie. Bon, 7 minutes quand même pour sécher le tout. Et quand il repart, la Jaguar est revenue dans le même tour. Donc effectivement, là, on avait un tour ou deux d'avance. Maintenant, on est tous dans le même tour. À une demi-heure de la fin de la course, l'écart se réduit à moins d'une minute. Et puis, la Ferrari franchit la ligne d'arrivée 105 secondes, c'est-à-dire avec 1 minute 45 d'avance sur la Jaguar. Là, on peut dire effectivement que, eh bien, il a fait chaud dans la voiture. Et il y a une magnifique photo, là, les lecteurs, en haut de la page 19, vous avez le comte Badiot qui avait une Ferrari et qui était en train de désensabler sa voiture au Tertre Rouge, et vous verrez sa tenue de pilote. Il était en costume et nœud papillon, s'il vous plaît.
On remonte les années avec 1967, cette fois-ci un autre duel documenté par Alain Aufauvre, un duel sans concession oppose alors Ferrari à Ford.
Ah oui, alors là, effectivement, c'était la grande bagarre. Hein. C'était la course du siècle, on l'a présenté comme ça, 350 000 personnes, et un concert de Johnny Hallyday. On ne plaisantait pas à l'époque. Et là, c'est la grande bagarre entre Ferrari, qui depuis 1960, 60 à 65, se montait intraitable et gagnait, et puis d'un autre côté, Ford, qui était arrivé. Les Américains avaient mis les sous qu'il fallait dans l'affaire pour l'emporter. Donc ça a été le grand duel entre les deux véhicules. Et puis ben, on n'arrivait pas à faire de pronostic, hein. C'était quand même relativement difficile. C'est là qu'on voyait des voitures un petit peu expérimentales. Il y avait notamment les Chaparral. Moi je m'en souviens parce qu'à cette époque-là, même pour vieux, je regardais ça à la télé. Les Chaparral qui avaient un volet à l'arrière. Donc, qui se levait ou qui s'aplatissait, suivant qu'il fallait coller la voiture au sol dans les virages ou pas. Il y avait une magnifique Ferrari, il y avait la Ford, ben Ford GT40, effectivement, et les Ferrari de Pedro Rodriguez. Donc, ben, tout ça, il y a eu une bagarre, une magnifique bagarre, et qui s'est tant attendu, c'est terminé. Quand même une belle course, mais bon, ça n'a pas été quand même la bagarre qu'on aurait pu attendre. Bon, il y a quand même eu un record du tour qui a été établi par la Ford de Hulme et celle d'Andretti en 3 minutes 26, c'est-à-dire qu'on roulait à plus de 238 de moyenne sur 13 km. Donc c'est là que cette année-là, ben, les commissions sportives, elles ont dit, oh là, oh là, oh là, oh là. On va calmer un petit peu le jeu et puis on va réduire un petit peu la puissance des voitures. Donc cette année-là, qui a été gagnée, il y a effectivement, c'est Ford qui gagnait avec deux pilotes, Anthony Joseph Foyt et Dan Gurney.
Autre édition, cette fois-ci avec Pierre Barsac, 1988, ce sera le duel entre Porsche, qui domine cette course des 24 heures dans les années 80, et Jaguar, qui fait son grand retour au Mans.
Alors oui, avec des voitures effectivement, ben, je dirais de légende. Tout le monde en avait un petit peu marre de Porsche. Non pas que ça déplaisait, mais il y avait quand même depuis les années 80, il y avait qui gagnait Porsche, 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 Porsche. Bon, ben, Jaguar arrivait, et puis avec les fameux Jaguars, avec la publicité Silk Cut, et puis ben, c'est là qu'on a dit, on va voir ce que l'on va voir. Et eh bien, cette année-là, effectivement, nos amis allemands ont été battus après un duel intense toute la nuit. Et c'est là que l'on a entendu à 16h, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, le God Save the Queen. Et puis, ben, ça continuera, c'est-à-dire que Jaguar, la Jaguar Usine, continuera avec une victoire en 90 et des participations en catégorie GT. Hein, donc, on verra toujours. On attend toujours le retour du Big Cat sur le circuit du Mans, parce que bon, Porsche, Jaguar, Ferrari, tout ça, ce sont les marques mythiques.
Et toujours avec Pierre Barsac, cette fois-ci, donc un autre duel plus récent, 2011, et cette fois-ci 13 secondes à l'arrivée, on parle d'un duel qui oppose Audi à Peugeot.
Ah oui, alors ça faisait longtemps, de 2000 à 2010, Audi ont gagné 8 fois. Mais, bon, je peux vous refaire le CID, mais vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde en phase 2. Mais, bon, il y a eu effectivement, il y a eu certaines écuries qui ont essayé de se battre, notamment comme Pescarolo Sport, mais ça marchait pas. Par contre, en 2011, bah oui, effectivement, il y a Peugeot qui est arrivé et puis qui a dit, bah, il serait quand même grand temps que l'on fasse quelque chose et puis que l'on s'en sorte. Il faut dire que bah, c'est l'année où il y a eu quand même quelques frayeurs, notamment on a une magnifique photo, enfin une magnifique, oui, la frayeur quand Alan McNish est sorti. Et donc là, quand on regarde cette photo, et puis que l'on connaît le bilan de l'accident, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de tôle tordue, McNish et photographe et tout le monde en sont sortis indemnes, oh là là, on se dit, mais quelle chance! Et puis, bon, ben, donc, il y a encore eu une nuit très, très difficile. Et puis, ben, il y avait toujours une fameuse Audi qui était en tête. Mais par contre, à 10h du matin, il y avait une Peugeot 908, celle de Bourdais, le Sartois, Pagenaud et Lamy, ben, qui commençait à pointer son nez. Par contre, bon. Ça se battait, ça se battait, ça se battait, ça se battait. Ben, il fallait choisir les pneumatiques. Il y a encore eu un fameux problème de pneumatiques. C'est souvent comme ça. Oui, parce qu'il y a encore eu un petit peu de pluie avant l'arrivée. Alors, chez Audi, on y croyait, on y croyait, on y croyait toujours. Mais cette année-là, Peugeot a réussi à détrôner le docteur Wolfgang Ulrich, le directeur d'Audi Sport. Et donc, a gagné les 24 heures.
Bomb.
Et ce chapitre sur les 24 heures comprend d'autres articles. On peut peut-être notamment dire quelques mots sur cette sympathique initiative de l'ACO, notamment avec le critérium du jeune pilote.
Ah oui, alors là, vous savez, en attendant le vrai permis, celui des cadets de l'ACO, et vous avez une très jolie photo. Hein, c'est Jacques-Henri Minier, effectivement, ça c'est son permis qu'il avait gagné lors du critérium du jeune pilote. C'est-à-dire qu'on faisait passer toute une série pour apprendre le code de la route, parce que ça prenait pas à l'école à l'époque. Ça rigolait pas. On pouvait conduire une voiture qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux voitures qu'il y avait sur le circuit. Mais alors, avant, ça rigolait pas. Il y avait des gendarmes qui vous faisaient passer des tests. C'est-à-dire qu'il fallait répondre aux questions, à toutes les questions qui étaient posées sur le code de la route. Il fallait respecter les panneaux sur le circuit. Et notamment, chaque tour, il fallait s'arrêter. Il y avait un panneau stop. Et attention, on pouvait être disqualifié si l'avant de la voiture dépassait de 10 cm ce panneau stop. Et puis, la CO a continué. Et puis, alors, il y avait la fameuse course des 24 minutes du Mans qui était installée dans le village. Et puis, ça rigolait pas. C'était les meilleurs qui s'affrontaient pendant 24 minutes pour gagner le titre de meilleur jeune pilote de la CO.
Et on va terminer par cet article qui s'intitule « La voix du Mans se raconte ». Tout le monde connaît le speaker des 24 heures, Bruno Vandestick, et là c'est lui qui écrit l'article.
Oui, je parie même que vous l'avez reconnu, la faute sur la photo, en dessous. Hein, on a un joli petit bouton, son premier anniversaire. Il a déjà une voiture à la main. Oui, Bruno Vandestick, c'est ce que je disais sur une autre antenne l'autre jour, c'est l'histoire d'un petit gamin qui est né en 1968 au Mans et qui est toujours au Mans et dont on parle toujours. Bruno Vandestick, il commence la grande semaine du Mans le premier jour du pesage et il termine la grande semaine du Mans à la remise des prix après 16h le dimanche. Et il a une formule qui est toujours prête, c'est bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le circuit des 24 heures. Et ça fait quand même 30 ans qu'il démarre comme ça. Bon, quelqu'un de très connu, et puis vous verrez également, il y a des photos, et il travaille avec Vincent Cerutti. Autre manceau, également connu, puisque Vincent Cerutti n'est autre que l'animateur d'une émission un petit peu connue, Danse avec les stars.
Et on retrouve d'ailleurs également une photo de Bruno Vandestick sur la page qui termine ce chapitre, écrite par Patrick Mèche, qui nous parle de champagne.
Justement, il me disait l'autre jour, je ne l'avais pas vu, Alonso, je n'avais pas vu qu'il allait m'arroser. Oui, parce que effectivement, jusqu'en 1966, on offrait une bouteille. Bon, c'est une idée du directeur commercial de la maison Mouette et Chandon, qui avait dit, on pourrait offrir une bouteille, et puis comme ça, tout le monde verrait que Mouette et Chandon récompense les vainqueurs. Mais la bouteille n'était pas débouchée à l'époque. C'est-à-dire que ils se la mettaient sous le bras et puis ils allaient boire ça après la course. Et le premier, c'est Joseph Hurt, qui lui, sa bouteille, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle avait été bien mise au frais avant? Est-ce que, toujours est-il que, ma foi, lui, il tenait sa bouteille quand ça a sauté. Ah, non, d'une pipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a mis le doigt dessus pour essayer, et c'est là que c'est le premier qui a arrosé le public. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Parce que le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, il a droit à une bouteille de lait. Oui, ils sont moins rigolos, nos amis américains.
Voilà, en tout cas, je pense que cet anniversaire, ce centenaire sera arrosé cette année. On va clôturer donc ce chapitre sur les 24 heures. On va pas oublier que La Vie Mancelle et Sartoise, ce n'est pas un magazine sport automobile, mais également qui parle de l'histoire et du patrimoine de notre département. Alors, je propose qu'on parle de cet article de Daniel Levoyer, donc sur cette belle et grande demeure à Changer, le château de la Buzardière.
Mais oui, grandeur et misère de la Buzardière. parce que la Buvardière a quand même été un château vraiment. La famille Clinchamp y a été construite 13e, 14e, 15e siècle. Et puis, il y avait un magnifique domaine forestier. Et quand on se promène devant, on voit un amas de pierres calcinées avec, d'ailleurs, en première de couverture, vous avez la nature qui a repris ses droits. Donc, c'est plus qu'une ruine. Donc, ça a connu des noms très, très, très célèbres. Bon, il y a eu une édification tourmentée, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de grandes familles qui se sont lancées dedans. Bon, c'était les Clinchamp au départ, hein, après avoir appartenu durant tout le XVIe siècle. Donc, il a été acquis par Pierre Girard de Lespinet, et puis après, il est arrivé à la famille Murat. Alors, la famille Murat, qui sont des nobles, une ancienne noblesse d'Auvergne. D'ailleurs, Murat le Caire, dans le Puy-de-Dôme, porte bien son nom. Et puis, le château est passé entre les mains de la famille Murat. Alors, petite anecdote, la comtesse de Murat, du lieutenant général de police, quand elle a été assignée à la cour. Alors, ensuite, après le déclin de la famille des Murat, c'est la famille de Nicolet. Donc, effectivement, la famille de Nicolet qui est encore très connue puisque ce sont les propriétaires du château du Lude actuellement. Et puis, par contre, si vous voulez, à partir du 18e siècle, il y a eu un déclin, 18e, 19e, il y a eu un déclin parce que ils ont préféré la famille de l'époque, la famille Charlotte de Murat et Raymond de Nicolet, vont préférer se fixer au château de Nogent-le-Rotrou, de Montfort-le-Rotrou, pardon, qui est pas très loin. Et puis, ça a été le départ de la déchéance avec des incendies. Bon, il y a une partie qui a été quand même restaurée, de façon à ce qu'il en reste quelque chose, mais là, franchement, et d'ailleurs, comme dit notre auteur, quand on passe devant les ruines, on ne connaît pas toute cette longue histoire, à moins, bien entendu, qu'on ait lu la vie mancelle et sartoise avant d'aller le visiter.
Voilà, bien évidemment.
Je te garderai. par le désir transhumant. Je te prie de sauver mon âme de berger. Je suis innocent. J'éprouve un sentiment profond, un sentiment si lourd qu'il m'enterre. Oh mon amour,
quelques mots également sur l'article de Didier Béoutis, Vieux Mans ou Cité Plantagenêt.
Vous avez le choix entre les deux. Alors, le Vieux Mans, bah, jusqu'au milieu des années 1900, donc 1950, 1960, 1970, c'était le Vieux Mans. Il faut dire qu'à l'époque, le Vieux Mans avait un caractère quelque peu péjoratif. Hein, c'était comme la cité des gamelles et autres lieux comme ça. Et puis, y a le maire de l'époque qui a dit si on appelait ça plutôt Plantagenêt, cité Plantagenêt, ça ferait quand même un petit peu plus posé. Et ça nous permettrait peut-être d'être reconnu et d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, malheureusement, ça n'a pas été très suivi, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la cité, ce qu'on appelle maintenant la cité Plantagenêt, il n'y a rien de Plantagenêt. On parle du musée de la reine Bérengère, mais qui date du XVIe siècle. Donc, il y avait très longtemps que la pauvre reine reposait tranquillement à l'abbaye cistercienne de l'Épaule. Donc, effectivement, là, ça a été vraiment... ce qu'on peut appeler peut-être un terme marketing pour essayer de redonner un petit peu de couleur à la cité. Donc là, nous, comme dit Didier Béoutis, laisse le choix, vous appelez ça comme vous voulez. Pour lui, sa religion est faite et ce sera toujours le Vieux Mans.
Et on va parler d'un autre lieu chargé d'histoire, cette fois-ci à Étival en Charny. On parle notamment de l'abbaye d'Étival et de la longue vie d'un monastère avec Gérard Blanchard.
Ah oui, alors là c'est vraiment intéressant parce que il est vrai que Étival, bon alors pas Étival les Lomonts, hein. Mais il y a eu une abbaye bénédictine pendant 9 siècles qui ont été cachées dans milieu de la forêt. Effectivement, c'est un certain Allôme qui, lui, était disciple de Robert d'Arbrissel. Robert d'Arbrissel, ça ne parle pas obligatoirement, mais c'est quand même lui qui venait de créer l'abbaye de Fontevraud en 1099. Et donc, quelques années plus tard, il y a une abbaye qui se crée en forêt de Charny, donc à Étival en Charny. Et puis le seigneur local, vicomte de Beaumont, baron de Sainte-Suzanne, il lui a laissé le site. Alors apparemment, il y avait une ancienne forteresse bâtie par Gannes, neveu. Oui, effectivement, le tertre Gannes, ceux qui connaissent Sainte-Suzanne, il y a un endroit, le tertre Gannes, c'était une famille, un neveu de Charlemagne qui était implanté dans la région. Ben, ça a été une abbaye prospère, puisque cette abbaye fondée, enfin l'abbaye telle dans sa version définitive, est approuvée en 1109 par l'évêque Hildebert, et c'était des abbayes qui étaient tenues par des abbesses, non pas des abbés. Et puis ben, il y a eu une période mouvementée parce que ben, je dirais que c'était pas tellement l'époque où le sourire était de rigueur dans ce genre d'établissement. Donc, il y a eu des dynasties qui ont fait des dons, et souvent des descendantes d'ailleurs de ces dynasties, telles les Souvray, les Dubellay, Sillé, Laval, Bouillé. Donc, et puis, décennie après décennie, au fil des siècles, ben, on faisait des dons. Patrimoine foncier de 1200 hectares, quand même, à une époque. Près de 40 fermes, des étangs et tout ce qui s'ensuit. Et puis, bon, il y a eu à un moment, dans cette plus riche abbaye du Maine, on avait quand même un petit peu, je dirais, desserré, si je puis m'expliquer ainsi, le frein à main de la discipline. Et puis, ben, il y a l'abbesse Clairnaud de l'Étang. Ben, elle a dit falloir qu'on reprenne un petit peu la tâche et puis on va continuer à lâcher un petit peu, mais bon, faut qu'on trouve le moyen terme. Et puis bon, ben, il y a eu une bagarre importante entre plusieurs personnes. Et puis ben, c'était pas tout à fait clair, hein, je dirais. Et puis donc, le maréchal de la famille de Tessé est intervenu également. Et puis, bah, petit à petit, bon, il y a eu une petite anecdote, mais ça, je laisse le lecteur, je peux en faire la lecture, parce qu'il y avait un brave curé qui avait tendance à un peu trop tourner autour des bonnes sœurs. Il lui est arrivé quelque chose, il lui est arrivé une très grave punition. Donc, et puis, ben, vers les années 1790, les congrégations disparaissant, là, on arrive à la fin, malheureusement, de cette abbaye. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il reste un retable de bois daté de 1780. Il reste une Pietà du XVIe siècle en terre cuite polychrome. Il reste également un vitrail huché du XIXe siècle aux armes des Beaumont, et puis une peinture murale du XVe siècle où apparaît une abbesse tenant sa crosse dans sa main droite et un livre ouvert dans sa main gauche. Donc, peut-être une des abbesses d'Étival, ou alors, les historiens se posent, s'agit-il de Sainte Scolastique, la sainte patronne du Mans, également patronne des bénédictines?
Grand savant de l'époque, tel père, tel fils, lui et Charles Mèche, et c'est André Ligné qui souhaite raviver la mémoire de ces deux ingénieurs aux attaches sartoises.
Aux attaches, effectivement, sartoises, puisque Louis Mèche, il est né en 1843 à Sainte-Croix, bon, ben, quartier du Mans maintenant, mais qui était une paroisse, qui a été rattachée quelques années plus tard. Alors, disons que ce sont des inventeurs, des grands savants, mais ils ont toujours, grâce à leurs travaux qui les ont rendus célèbres, mais ils ont toujours perfectionné. Ils sont partis d'une idée simple, et puis à chaque fois, ah oui, c'est bien ça comme invention, mais on va faire breveter ce qu'on trouve. Et puis bon, ils ont travaillé notamment sur les piles électriques, sur les électrophones. Les électrophones, c'était les téléphones qui marchaient avec impulsion électrique. Et puis, donc, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont réussi également à faire ils n'ont pas inventé le téléphone portable, mais ils ont réussi à mettre un système avec un cadre récepteur de communication, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à parler sans fil. Donc c'était quand même quelque chose de relativement important à l'époque. Et puis, bon, ben, ils ont travaillé sur le sphérique dirigeable. Ce sont des gens qui, malheureusement, ont pratiquement fini dans la misère. Hein, c'est vraiment très triste. Bah, disons qu'ils n'ont jamais réussi à faire fortune avec le travail scientifique formidable qu'ils ont pu faire.
Et un autre personnage également qu'on va évoquer, c'est Jacques-Henri Migné qui nous peint le portrait de cet artiste aujourd'hui reconnu parmi l'un des plus talentueux peintres sartois, Henri Gisard.
Oui, effectivement, Henri Gisard, et donc les lecteurs, vous pourrez vous rendre compte un petit peu du travail d'Henri Gisard. Notamment, lui, il a peint une rue du Vieux-Mans, hein, en 1911, au crayon gras et à l'aquarelle, et il appelait ça une rue du Vieux-Mans. Donc, Henri Gisard, ben, il est né à Saint-Calais, un jeune Calaisien, en 1879. Et puis, bon, il s'installe au Mans, il trouve un emploi de représentant dans une épicerie réputée du centre-ville, puis il loge dans une vieille mansarde. Mais il est passionné de peinture. Et puis, bah, il rencontre un jeune clerc de notaire de 5 ans, son cadet, et puis qui suit les cours des beaux-arts. Bah, c'est simplement ce jeune copain-là, c'est Maurice Loutreuil, qui est quand même également quelqu'un de très connu. Et puis, il suit un peu les cours de Jules Hervé Mathé. Et puis, il y a un style bizarre. Qui se fait notamment l'Agnille, il y a Saint-Calais, et puis il y a le marché sur les quais de l'Agnille, il a permis à peint Saint-Calais. Et puis, si vous voulez, ben Gisard, lui, c'est pareil. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il soit mort très, très, très riche, puisque lui, ce que Gisard disait, il ne peignait pas pour vivre. Mais il vivait pour peindre. Donc voilà un petit peu le personnage.
Un peintre arrive dans un décor fait d'une rive et d'arbres d'or, puis il installe son chevalet dans les pétales de bleu bleuet, la brise est douce et la rivière accueille la mousse sur sa civière. Un asphodèle heureux comme tout, qu'une hirondelle frôle son cou dans le plein cintre du champ de vision, fait signe au peintre, belle éclosion. La couleur glisse, le tableau part, feu d'artifice de toutes parts. Les rouges en place renforcent les verts, rien ne tracasse le ciel désert, où seul peut-être, si cela regarde, ce bois de hêtre, couleur moutarde, dame nature se fait piéger dans une peinture privilégiée. La ressemblance devient si forte que toute nuance n'ont plus d'escorte. Oui, la rivière coule à plein flot, à sa manière, dans le tableau. La vieille ferme est en relief, elle s'enferme autour du bief. Alors l'artiste trouve que c'est bon, et ne résiste à faire un bond dans les eaux calmes de son chef-d'œuvre. Mais une palme en forme de pieuvre accroche sa jambe. Au secours, à moi! Il croit qu'il flambe, mais il se noie. Voyez, il coule, meurt tout au fond, et l'eau s'enroule, devient plafond. Seul sur la rive, un chevalet accueille une grive qui disparaît. Là sur la berge, et même plus loin, la place est vierge de tout témoin, sauf moi sans doute, qui avait tout vu sur cette route du temps perdu, perdu dans l'ombre du souvenir qui pour la peindre faisait mourir. Cela nous prouve qu'avec lenteur l'œuvre recouvre son créateur. Cela nous prouve qu'avec lenteur l'œuvre recouvre son créateur.
Et on va terminer par cette belle rencontre de Francis Landier avec cette star internationale qui a choisi Le Mans pour s'installer, organiste américaine devenue mancelle, Rhoda Scott.
Ah, Rhoda Scott. Effectivement, donc, quand je dis ça dans ce style, ça me rappelle l'époque où on avait les cheveux sur les épaules. Ils n'étaient pas blancs, ils avaient encore de la couleur. Et c'était l'organiste au pied nu. C'est-à-dire que Rhoda Scott jouait toujours de son orgue à bond et montait sur scène. Je me souviens, 1969, oui, Take a Ladder, son premier album chez Barclay. Oui, effectivement, c'était bien Rhoda Scott qui montait sur scène. Et alors, ça faisait vraiment scandale à l'époque, à l'orgue électrique et pieds nus. Et donc, ben, effectivement, pour elle a bien démarré, puis elle s'est installée en France, village du Perche. Et puis, donc, après, elle est venue s'installer au Mans, pour plusieurs raisons, notamment parce que sa fille est installée au Mans, et puis donc, ben, s'est dit, je vais me rapprocher de mes enfants. Nous avons maintenant la chance d'avoir Rhoda Scott parmi nos compatriotes. Et d'ailleurs, comme il dit, merci madame et bienvenue dans notre ville. On la voit également avec un autre Sartois d'adoption, grand Sartois d'adoption, Manu Dibango, avec lequel elle a donné beaucoup de spectacles.
Exactement. Eh bien, Jean-Pierre Guyard, je vais vous remercier pour toutes ces informations. On comprend bien que cette revue est donc agrémentée par de nombreuses illustrations, très bien rédigées par l'équipe qui travaille autour de cette revue, puisque vous n'êtes pas seul à éditer cette revue. On fait référence à chaque fois à chaque auteur de chaque article. Le mieux pour soutenir cette équipe au travail, c'est de s'abonner, je pense, à cette revue.
Ah, tout à fait, oui, effectivement. Ça ne coûte que 31 € pour un an ou 60 € pour 2 ans. Et j'en profite pendant toute la grande semaine du Mans. Nous sommes présents partout. Et puis, donc, on a réuni sous forme de gros coffret luxueux ou sous forme d'une pochette, 100 ans de 24 heures et un petit peu toute l'histoire des 24 heures de façon à offrir à nos lecteurs ou à ceux qui connaissent un peu moins l'épopée du monde des 24 heures, bah, disons, toute cette histoire. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire 100 ans en 5 numéros. On n'a pas parlé de tout. Hein.
L'occasion de retrouver ces numéros, l'occasion également aussi de découvrir cette revue en prenant juste cette édition et puis pourquoi pas donner envie de s'abonner après. Donc 6,80 € formule chez le dépositaire du coin. Et puis on a aussi la possibilité de l'abonnement numérique qui est un tarif plus avantageux mais qui pense n'est pas aussi agréable.
Là vous prêchez un convaincu. Hein. On est obligé de mettre quand même la vie mensuelle à l'heure du 21e siècle. Mais moi, je n'arrive pas à le lire. Non, parce qu'au bout d'un moment, ça m'agace. Je préfère avoir le papier. Donc, effectivement, oui, puisqu'on est à 22 € en formule numérique pour un an et 42 pour 2 ans au lieu de 31 ou 60.
Pour la prochaine édition, puisqu'on ne parlera plus de 24 heures, peut-être d'autres sujets à évoquer?
Oh, il y en aura. Il y aura d'autres sujets. Je les connais pas encore tout à fait. On a beaucoup travaillé. Puis là, vu la période, on est plutôt en train de travailler sur le centenaire. Mais pour le mois de septembre, il y aura encore de belles surprises. Et pour le mois de décembre également. Et pour toute l'année 2024, nous fêterons nos 65 ans.
Donc, prochaine édition attendue en septembre. D'ici là, on vous souhaite de belles vacances.
Merci, vous de même. Au revoir.
Au revoir.
Whenever on vous entend chanter, ça fait